Moi, je peux vous proposer très rapidement un petit survol, disons, de l'internationalisme, de la solidarité internationaliste de Cuba, de la révolution cubaine, vis-à-vis du Sud en général et de l'Afrique, en particulier. Cet internationalisme s'inscrit, bien sûr, dans l'histoire universelle de l'internationalisme. Alors, où le faire et quand le faire commencer, ça c'est une grande question, mais il y a, je pense, comme racine incontournable la Révolution française, ami et allié naturel des peuples libres, comme disaient les révolutionnaires de l'époque. Vous savez que des étrangers ont combattu, bien sûr, dans la Révolution française. Miranda est venu se battre jusqu'à Valmy avec Dumouriez, jusque dans l'armée des Flandres. Bon, et inversement, des Jacobins blancs sont allés se battre à l'étranger. Il y avait des Jacobins blancs dans les armées d'anciens esclaves noirs en Haïti, les armées de Toussaint Louverture. Des Jacobins étaient partis avec lui. On peut aussi situer l'internationalisme en Amérique latine même, avec l'armée de Sucre qui est allée, peut-être le plus brave, le plus aimé, le plus fidèle des généraux de Bolivar, qui est allé délivrer le Pérou et la Bolivie, donc qui a fait chuter l'empire colonial espagnol en Amérique du Sud après la bataille d'Ayacucho en 1824. Son armée était une armée internationaliste avec des soldats venus des quatre coins du continent sud-américain. En tout cas, et puis il y a eu les grandes heures de l'internationalisme, il y a eu le Comintern et le Congrès des peuples d'Orient à Bakou en 1920, il y a évidemment eu aussi peut-être un sommet de l'internationalisme avec la guerre d'Espagne, les brigades internationales, qui n'est pas complètement hors sujet, hein. C'est juste 20 ans avant le début de la guérilla à Cuba, et Cuba, Fidel a 10 ans à l'époque. Et cette manifestation de solidarité internationaliste à l'égard de la République espagnole a profondément marqué Fidel à cette époque. Bon. Alors, il y a ça, bien sûr, l'internationalisme cubain qui ira jusqu'en Afrique plonge surtout ses racines dans l'histoire de la libération nationale du peuple cubain lui-même, bien évidemment, où, de façon tout à fait symptomatique, je dirais, tout à fait caractéristique, vont fusionner lutte pour la libération nationale, c'est-à-dire lutte anti-impérialiste, si vous voulez, avant qu'on l'appelle même anti-impérialiste, mais la lutte pour la libération nationale, la lutte pour des revendications sociales qui, à Cuba, vont petit à petit devenir socialistes et enfin communistes, disons, les luttes anticapitalistes, on va les appeler comme ça, et les luttes pour l'égalité des races, entre guillemets, pour l'égalité de tous les hommes, c'est-à-dire les luttes anti-esclavagistes. Ces trois luttes vont totalement fusionner à Cuba pour s'unifier dans des principes humanistes que José Martí, l'un des grands penseurs cubains et qui a été acteur aussi de la guerre d'indépendance, José Martí a symbolisé, a synthétisé cette fusion dans une éthique, disons, tout à fait particulière et qui va de ces trois luttes qui vont finalement caractériser ce qu'on appelle le projet communiste cubain. C'est ça, c'est l'unification de ces trois luttes. Bon. Alors, dans le cas cubain, il y a eu un tel effet d'attraction que des étrangers, alors même que Cuba est resté sous domination étrangère beaucoup plus longtemps que les autres pays d'Amérique latine, est resté colonie espagnole presque un siècle de plus que les autres, et très longtemps esclavagiste, colonie espagnole et esclavagiste, mais surtout sous une domination économique des États-Unis. Il y a eu, malgré cette histoire beaucoup plus longue qu'ailleurs de domination étrangère, il y a toujours eu des étrangers qui ont été attirés, qui se sont engagés dans la lutte pour l'émancipation du peuple cubain. Ça a été, par exemple, Hector pourra en parler, c'est lui qui m'en avait parlé un jour, Henry Reeve, El Inglesito, qui était venu de Brooklyn et qui a combattu 7 ans dans l'armée de libération à Cuba. Et il y a eu, donc lui, il était états-unien, mais il y a eu un dominicain aussi très, très important, très connu, qui s'appelle Maximo Gomez, qui était d'abord officier supérieur dans l'armée espagnole et qui est passé pendant la première guerre d'indépendance de Cuba, 1868-1878, il est passé dans le camp de la rébellion, dans le camp de Céspedes et des esclaves révoltés, hein, surtout à l'est du pays. Et ensuite, il est devenu commandant en chef de l'armée de libération, des armées mambis dans la deuxième guerre d'indépendance qui a lieu en 1895-1898. Et évidemment, il y a la figure du Che Guevara, hein, qui symbolise toute cette... qui est devenu cubain. Mais avant de devenir cubain, la connexion avec le Che a été faite par des camarades, des communistes cubains, qui eux-mêmes étaient internationalistes et eux-mêmes se battaient ailleurs, en particulier Jorge Risquet Valdés, qui a été l'un de ceux qui ont établi la connexion entre le Che et Cuba dans la lutte internationaliste de Cubains sortis de Cuba pour aller défendre la démocratie au Guatemala du temps de Jacobo Arbenz, lorsque, avant qu'il y ait le coup d'État qui renverse Jacobo Arbenz et l'expérience démocratique au Guatemala. Vous voyez, donc il y a cette histoire-là, aussi et surtout, l'histoire de l'émancipation du peuple cubain. Et si vous me permettez, j'oserais dire qu'il y a aussi l'Union soviétique. Ce n'est pas rien. C'est l'Union soviétique qui a aidé de manière tout à fait considérable et, à mon sens, décisive, la révolution cubaine à ses tout débuts, au moment de vulnérabilité et de radicalisation extrême, des tout débuts de la révolution, lorsqu'elle était vraiment militairement menacée par l'impérialisme, avec une tentative d'invasion, comme vous savez, en 1961, avant que la guerre des États-Unis contre Cuba change de forme et prenne la forme du blocus qui a été imposé juste après l'échec, à partir de 1962, juste après l'échec de l'invasion militaire. C'est à ce moment-là que Cuba était très vulnérable, c'est à ce moment-là que l'Union soviétique et les autres pays du Comecon ont considérablement aidé, pas seulement militairement, mais aussi économiquement, aussi techniquement, humainement même, la révolution cubaine, au point d'apporter un certain nombre, disons un certain bien-être, jusque dans les années 1980 à Cuba. Donc, je suis en train de vous dire que ce n'est pas le socialisme qui a amené la pénurie des années 90 et de la période spéciale à Cuba, mais la chute de l'Union soviétique. Il faut savoir d'où vient le problème. Bon, je passe vite. C'est à ce moment-là, précisément, que va commencer le début de l'internationalisme cubain, et spécialement en Afrique. Il y a d'abord des premiers contacts. Cet internationalisme, il change petit à petit de forme et d'intensité, je vais dire. Au tout début, il y a des premiers contacts qui sont établis avec des gouvernements progressistes, en particulier en Égypte, Gamal Abdel Nasser, et c'est les tout premiers contacts qui se font à l'époque où il existait déjà une toute petite représentation diplomatique. C'était la seule représentation diplomatique de Cuba en Afrique. Mais c'est surtout à partir de l'Algérie, à partir de 1961, que commence l'internationalisme cubain d'une manière, on va dire, systématique et dans ses deux formes, à la fois militaire et civile. L'Algérie et le FLN d'Ahmed Ben Bella est le premier à bénéficier de la solidarité internationaliste de Cuba, en particulier par l'envoi d'armes et même de soldats lors de la guerre des sables, ce qu'on a appelé la guerre des sables, en 1963, contre le Maroc, quand le Maroc a tenté d'envahir une partie du sud-ouest de l'Algérie. Des Cubains étaient là, aux côtés des Algériens. là, on a un début de systématisation de l'internationalisme cubain, qui va d'abord quand même surtout s'orienter vers un soutien aux guérillas latino-américaines, à peu près partout sur le continent. Mais assez vite, après l'échec de ces guérillas, à partir, disons, de 63, 65, 67, mais disons, le point tournant, c'est 1965, Cuba va déplacer cet internationalisme vers, à la fois militaire et civil, je le redis, vers l'Afrique. C'est l'arrivée de la première colonne du Che, vous savez, au Congo Léopoldville, par la Tanzanie de Nyerere, okay, puis, pratiquement juste après, l'arrivée de la colonne 2, dite Patrice Lumumba, qui est entrée de l'autre côté, par le Congo-Brazzaville, par Pointe-Noire. L'objectif étant de se rejoindre au cœur du Congo, Congo-Kinshasa, comme on dit maintenant, là où les forces lumumbistes étaient les plus fortes. Donc le mouvement national congolais lumumbiste était, l'appui des forces cubaines à ce moment-là. Bon. Et là, il y a, donc, à partir de cette époque, il y a une généralisation de la solidarité internationaliste cubaine en Afrique. Tous les gouvernements révolutionnaires, tous africains, ont d'une façon ou d'une autre bénéficié, parfois de manière fondamentale, de l'aide cubaine, que ce soit Amical Cabral, le PIAGC en Guinée et au Cap-Vert, ou l'Afrique australe, évidemment, très tôt, le MPLA de Neto, d'Agostinho Neto, et donc on est tout autour de l'Afrique du Sud de l'apartheid, hein, le Frelimo au Mozambique, la SWAPO en Namibie. Les Cubains sont à peu près partout. Ils sont aussi, évidemment, en soutien à la révolution éthiopienne, et même en conservant suffisamment d'autonomie pour appuyer aussi les rebelles érythréens. C'est-à-dire que les Cubains, très tôt, vont reconnaître aux Érythréens le droit à l'autonomie. Vous voyez un peu. Donc, il y a un très grand courage, y compris jusque dans ses relations avec ses alliés. Alors, l'Union soviétique est là, bien sûr, mais on pourrait dire qu'elle y va souvent entrer dans les pieds, à contre-cœur, mais elle envoie des armes. L'Union soviétique est là pour soutenir, mais ce sont les Cubains qui sont présents, surtout, et qui se battent quand il faut se battre. Le moment le plus important, disons, est pour aller très très vite, je suis obligé de passer très vite. J'oublie, disons, l'extension dans le temps. Je suis obligé de passer très vite, mais il y a les appuis évidemment au Front Polisario, au Sahraoui. Il y a les appuis jusque à Tom Sank, jusqu'au Conseil national de la Révolution burkinabé. C'est-à-dire jusque très tardivement, les Cubains appuient toutes les forces progressistes ou radical, révolutionnaire en Afrique. Mais le moment où on change vraiment d'ampleur, disons, le moment où les Cubains arrivent massivement, c'est quand même à partir du milieu des années 70. Il y a bien sûr l'Éthiopie et la défense dans une guerre au contour très délicat, c'est une guerre qui a opposé deux gouvernements socialistes, entre guillemets, hein, où les Russes étaient d'ailleurs un peu perdus, et les Cubains ont servi de boussole, pour le coup. Mais ça a été la défense de l'Ogaden éthiopien contre la tentative d'intrusion de l'armée somalienne. Et il y a eu jusqu'à 42, 45 000 Cubains qui se sont battus dans cette guerre de l'Ogaden. C'est grand, hein, c'est plus grand que Cuba, l'Ogaden. Hein, c'est une toute petite partie de l'Éthiopie, mais c'est beaucoup plus grand que Cuba. Ils étaient là. Mais le point vraiment... L'apothéose, si vous me permettez l'expression, le point culminant de l'internationalisme cubain en Afrique, c'est l'Angola. C'est le moment où, un an après la chute du fascisme et la révolution des œillets au Portugal, la révolution angolaise est menacée. Et Neto, Agostinho Neto, va demander l'aide d'urgence directement au chef de la révolution cubaine, à Fidel Castro, pour lui demander d'envoyer des troupes pour défendre la révolution angolaise. Contre qui? Contre des forces extérieures et intérieures qui, contre-révolutionnaires, qui menaçaient la révolution. Alors donc, je vous parle donc de l'appui de Cuba au MPLA, au Mouvement Populaire de Libération de l'Angola, d'accord? Et au FAPLA, aux Forces Armées Populaires de Libération de l'Angola. Et face au gouvernement légitime de l'Angola, indépendant depuis la chute de la dictature au Portugal, et il y a des forces hostiles, et ces forces, ce sont l'UNITA, comme vous savez, de Savimbi. Vous saviez que c'était un ancien ami de Jean-Marie Le Pen? Vous ne saviez pas? Il a des amis noirs, hein, de peau. Il a eu des amis noirs de peau. Savimbi était en photo chez lui. Hein. Il y a le FNLA, le Front National de Libération de l'Angola, d'Holden Roberto, et il y a un petit parti fantoche, le FLEC, hein, le Front de Libération de l'enclave de Cabinda, c'est-à-dire la petite enclave pétrolière qu'il y a de l'autre côté du fleuve, mais qui est territoire angolais. Et c'est par là que les Cubains, d'ailleurs, ont commencé. C'est par la défense de l'enclave de Cabinda que l'intervention cubaine a commencé en 75, dès novembre 75, avant de se généraliser sur le territoire angolais. Et les premières victoires qui se sont enchaînées, c'est France Ndalou, le général, je crois qu'il était France Ndalou, qui commandait les FAPLA, donc les forces révolutionnaires, forces armées révolutionnaires de l'Angola, et de l'autre côté, il y a Risquette qui commandait les forces cubaines côte à côte contre, dans un premier temps, le FNLA, qui est vite mis en déroute. Dès la fin de l'année 75, le FNLA de Holden Roberto est défait. Holden Roberto, d'ailleurs, part en exil, et il part en exil à Paris. Vous voyez? Bon, chacun choisit son camp, hein? Bon, en tout cas, à l'époque, nos gouvernements avaient choisi le leur. On était quand même au temps de l'apartheid, mais le plus terrible qui soit à l'époque, hein? Et donc le FLEC est, disons, mis en déroute, puis le FNLA, et les victoires angolano-cubaines vont s'enchaîner avant qu'il y ait quelque chose qui ressemble à une trêve de quelques années entre 76, 77 et 1983, moment où les combats reprennent, menés surtout par l'UNITA, et c'est une montée en puissance, disons, des combats où les Cubains ont envoyé il y a eu jusqu'à 50 000 soldats cubains présents sur les territoires angolais pour combattre aux côtés des forces armées révolutionnaires angolaises. Une série de victoires, une série de blocages, disons, d'offensives où de plus en plus souvent c'est l'armée sud-africaine blanche, des soldats blancs, des défenseurs ou des mercenaires, mais surtout l'armée sud-africaine blanche de l'apartheid qui intervient dans les combats, avec, je pense que ce n'est pas un secret de dire qu'il y avait un soutien logistique et technique des États-Unis derrière. Ce n'est pas de même qu'il y avait l'Union soviétique qui soutenait dans le camp angolano-cubain les forces révolutionnaires. En face, c'était quand même l'Afrique du Sud de l'apartheid et les États-Unis qui affrontaient la révolution angolaise. Voilà, le sommet de ces batailles, c'est la bataille de Cuito-Cuanavale, que vous connaissez sans doute, qui est au moins de nom, qui s'achève en mars 1988, qui a duré plus de 6 mois, qui est la plus grande bataille militaire sur le continent africain depuis la Deuxième Guerre mondiale, et qui est finalement, au prix d'assez lourdes pertes, qui est remportée. Bataille remportée par les forces révolutionnaires angolano-cubaines et qui ont amené pour la première fois, c'est ça qu'il faut comprendre, pour la première fois Pretoria à infléchir sa ligne néo-fasciste de l'apartheid, qu'elle n'avait jamais infléchie auparavant, même lorsque le blocus onusien a été imposé, même lorsque les pressions de différents partenaires du camp des droits de l'homme, comme on dit, de l'Occident s'exerçait contre le régime de l'apartheid, Pretoria ne bougeait pas, ne voulait pas, ne parlait pas de lever de l'apartheid. Il a fallu une défaite militaire angolano-cubaine infligée aux forces sud-africaines et de l'UNITA, évidemment, qui combattait avec eux, pour que Pretoria infléchisse pour la première fois sa ligne et qu'on entreaperçoive, disons, la possibilité d'une sortie de tunnel, c'est-à-dire une impulsion colossale donnée à la lutte du peuple du sud-africain pour abattre le régime de l'apartheid. Voilà ce qui a amené, comme vous savez, la libération de Nelson Mandela et la libération du pays. Donc, retrait des 1988-1991, retrait des troupes sud-africaines de l'Angola, maintien de l'indépendance du pays, autodétermination de la Namibie et chute de l'apartheid. Quoi de plus important, je vous demande, quoi de plus important pour nous tous que d'avoir fait chuter le régime de l'apartheid? Il faut mesurer les choses à leur juste mesure. Qu'il y ait un mur du silence qui entoure dans nos livres d'histoire et dans nos livres en général, qu'il y ait un mur du silence imposé autour de cette réalité qu'il a fallu l'internationalisme cubain aux côtés de forces révolutionnaires africaines luttant côte à côte pour abattre et la lutte évidemment du peuple sud-africain pour abattre l'apartheid, qu'il y ait cette réalité, qu'elle soit niée. Nous, ça ne nous empêche pas de lutter pour abattre ce mur du silence, pour que l'on sache, qu'on en parle, qu'on diffuse cette information absolument fondamentale que tous les Africains savent, mais que finalement très peu d'Européens connaissent. Et sur le mur de la liberté, je crois qu'il s'appelle comme ça, Sikumbuto, au Freedom Park, au parc de la liberté, à Pretoria, il y a un, tu l'as vu, il y a une énorme pierre avec gravé les noms de plus de 2000 soldats cubains qui sont tombés dans ces combats. L'Afrique n'oublie pas, ni l'Afrique du Sud, ni personne en Afrique, et nous autres en Europe, nous ne pouvons pas oublier ça. Nous ne pouvons pas oublier ça. Et c'est la même chose qu'on retrouve, c'est cette éthique, ces principes humanistes éthiques que l'on retrouvait même dans ces interventions militaires et qui sont finalement les principes qui sont au cœur des interventions civiles, en particulier médicales, de la solidarité médicale que Cuba exerce en Afrique. Alors, il ne faut pas se montrer surpris de voir arriver des brigades médicales cubaines pour aller lutter contre Ebola en Sierra Leone, au Liberia, en Guinée. Pourquoi être surpris? Il y a eu des centaines de milliers, des centaines de milliers de Cubains qui sont allés en mission civile ou militaire dans le monde, en particulier en Afrique. 386 000 ont combattu en Afrique au total, 386 000 Cubains. Alors, c'est la continuité de cet interventionnalisme, de cette solidarité internationaliste, et c'est aussi, je le redis, ce sont les mêmes principes humanistes et éthiques qui animent les deux types d'interventions. Cuba est actuellement présent dans 66 pays avec près de 50 000 travailleurs de la santé, dont la moitié médecins. Et parmi ces médecins, les deux tiers sont des femmes. Jusque dans les montagnes du Pakistan, où il n'y a que les Cubains et les médecins talibans. 4 000, donc il y a plus de médecins cubains dans le monde que de médecins originaires du G7, du groupe des 7 pays les plus riches. Bon, 36 000 milliards de dollars cumulés pour les pays du G7, 36 000 milliards de PIB. Le PIB de Cuba, oh, 65 milliards de dollars. 65 milliards de dollars, plus de médecins dans le monde que 36 000 milliards. On voit où sont placées les priorités des uns et des autres. Je ne fais pas trop de commentaires parce que je veux être rapide. Donc, depuis le début, depuis un demi-siècle, en fait, c'est ça, depuis 61, l'Algérie, 595 000 missions médicales cubaines menées dans 158 pays, 325 000 travailleurs de la santé mobilisés, 2,2 millions d'accouchements accompagnés par des médecins cubains, 12 millions d'enfants vaccinés par des médecins cubains. Tout ça gratuitement, j'ai oublié de le dire, mais c'est évident. Hein. Enfin, vous l'aviez tous en tête. Les consultations des médecins cubains sont gratuites. Hein. Autant d'actes médicaux, donc, pardon, autant d'actes chirurgicaux, donc d'opérations, 12 millions d'opérations réalisées, 1,2 milliard de consultations médicales. Alors, je n'ai pas les chiffres précis, mais j'imagine que le résultat de tout ça, ça a été quand même quelques vies humaines sauvées. Probablement, hein. C'est peut-être que les gens qui sont très hostiles à Cuba diront que ça n'a pas eu d'effet. Hein. Mais il est probable qu'1,2 milliard de consultations médicales produisent quand même quelques effets positifs sur les populations concernées. Alors, il y a 40 000 jeunes diplômés étrangers, beaucoup africains, beaucoup, dans des écoles de médecine cubaines, en particulier de l'école latino-américaine de médecine, l'ELAM, à La Havane. Donc 40 000, vous comprenez, 40 000 jeunes étrangers qui ont été diplômés, qui sont devenus docteurs à Cuba, payés par le gouvernement cubain, y compris des États-Unis d'ailleurs, y compris des étudiants des États-Unis. Je vous rappelle que Cuba est sous blocus. Et pourtant, Cuba... Il est arrivé quand même assez fréquemment que Cuba paye les études d'étudiants états-uniens pour venir apprendre la médecine à Cuba. Bon, c'était déjà un grand courage de la part de ces jeunes d'aller défier le blocus pour aller à l'école de médecine à Cuba quand même. Hein. L'avantage n'est pas... Enfin, les éloges ne sont pas qu'à adresser à Cuba aussi. Il y a aussi ces jeunes aux États-Unis qui ont le courage de dire leur solidarité et leur choix de vie d'être à côté de Cuba. Alors vous voyez, 45 pays ont été, les premiers ont été de Guinée-Conakry. Les tout premiers sont arrivés en 1961. Ça a été la toute première brigade, si je puis dire, de jeunes Africains partis étudier la médecine à Cuba. Et il y a presque toutes les nationalités africaines qui sont représentées dans les écoles de médecine. 30 000 Cubains sont dans la mission Barrio Adentro au Venezuela. Vous la connaissez, cette mission, c'est une mission de santé dans les quartiers, les barrios au Venezuela. 30 000 sont là, 30 000 Cubains. Et il y a la mission Milagro, que vous connaissez peut-être, la mission Miracle, qui permet gratuitement, encore une fois, à des étrangers de se faire opérer par des médecins cubains, parfois en étant opérés à Cuba même, le plus souvent d'ailleurs. Opération de la cataracte ou de glaucome, enfin de problèmes graves qui amènent la cécité. Mais voilà, alors, qu'est-ce que je vous dis encore? Je vais vous dire juste une petite chose qui, moi, m'a toujours touché. Lorsqu'il y a eu la catastrophe de Tchernobyl, 1986, des populations ont été contaminées, et en particulier des enfants, qui sont très, très vulnérables à tout le monde, mais les enfants encore plus. Et il y a eu beaucoup d'enfants qui ont été accueillis à Cuba, dans des hôpitaux et même dans des centres médicaux spécialement dédiés aux soins à apporter à ces enfants ukrainiens contaminés, enfin soviétiques à l'époque, mais concrètement d'Ukraine, qui avaient été contaminés par la catastrophe nucléaire. Lorsque l'Union soviétique est tombée, le gouvernement ukrainien ne s'est pas, le nouveau gouvernement ukrainien, bien inspiré, si je puis dire. Regardez le résultat aujourd'hui. Il y avait déjà des germes, si je puis dire. A commencé à critiquer, parfois extrêmement durement, Cuba. Je vous rappelle juste que 20 000 enfants ukrainiens ont été soignés à Cuba. 20 000 de la catastrophe de Tchernobyl. Qu'a fait Cuba? Ils ont mis ces enfants dans un avion, ils les ont embarqués pour l'Ukraine? Non, ils les ont gardés. Et quand quelqu'un venait leur dire « Mais pourquoi vous gardez ces enfants ?» puisque le gouvernement d'Ukraine maintenant vous est hostile, disaient les Cubains. Ont dit. Mais est-ce que c'est la faute de ces enfants malades? Non, ils resteront ici, on les soignera et on en accueillera d'autres encore si le gouvernement ukrainien accepte de nous les envoyer. C'est clair, il faut parler d'éthique, il faut parler d'humanisme, mais pas d'humanisme en l'air, d'humanisme attaché, consubstantiel, intégré dans une révolution. Alors, si vous me permettez, tous ne seront pas convaincus peut-être, une révolution qui continue à revendiquer le marxisme-léninisme comme fondement de son idéologie. Il faut le dire aussi clairement.
Donde habitaba la raza india, la que con el tiempo exterminó abusadores. Llegó la raza africana y la mezclaron con la española. Nació la mulata criolla, la cubana. Sí, era una mezcla diferente, con mucho sabor. Acompañada de la rumba y el guaguancó, dueños de la clave y la magia del 3 más 2 que nos hizo tan especiales.